n'y a pas besoin d'opposer la nature à l'économie, l'humain à l'économie, tout ça doit aller de pair.
J'ai eu la chance dans ma carrière d'avoir des managers qui m'ont toujours tiré vers le haut.
Seule la puissance d'un collectif permettra de relever les défis.
L'envers du décor, elle est très précieuse. Ça vous apprend beaucoup sur les êtres et sur leur manière de se comporter.
Après, les questions s'arrêtent, on revient à son exercice, à son métier, quoi, et on fait ce qu'on doit faire.
Sur Radio Classique, vous écoutez les chefs d'entreprise parler stratégie, investissement et résultats financiers. Mais pour vraiment les comprendre, il faut aussi connaître leur parcours, savoir quels sont les grands événements qui les ont marqués et ceux auxquels ils ont participé. C'est ce que ces femmes et ces hommes viennent raconter dans ce podcast. Je suis Céline Cajoulis et vous écoutez la saison 3 de Secrets de dirigeants. C'est l'un des dirigeants les plus discrets du CAC 40, sa parole n'en a que plus de prix. Il a commencé sa carrière chez Bouygues Télécom à la tête d'une équipe de 6 personnes. Et 30 ans plus tard, il est à la tête du groupe Bouygues qui en compte 200 000. Parfait exemple de l'ascension sociale, il a gravi les échelons un par un et a traversé plusieurs crises.
Olivier Roussat, 60 ans cette année. C'est terrible, hein ? Ça claque.
Travailler dans un groupe familial qui fait à la fois de la construction, des médias, des télécoms et des services aux entreprises demande une vraie colonne vertébrale et des principes qui, vous allez le voir, tiennent sur une petite feuille de papier à peine plus grande qu'un post-it. Et une des premières crises qu'il a traversées, c'est celle de l'arrivée de Free sur le marché du mobile en 2012. C'est le début de la guerre des télécoms.
Après les offres dans le téléphone fixe, Iliad, la maison mère de Free, se lance dans le mobile. L'opérateur téléphonique, dernier entrant sur le marché, propose des prix cassés et compte bien séduire les clients des trois autres opérateurs, Bouygues Télécom, Orange et SFR. Rappelons que c'est la volonté de l'autorité de la concurrence d'avoir quatre opérateurs en France pour qu'une guerre des prix soit favorable aux consommateurs.
C'est un changement assez brutal. En fait, on s'y prépare puisque de mémoire, l'attribution de la licence ou le process d'attribution de la quatrième licence, il doit démarrer en 2010 de mémoire, fin 2010, quelque chose comme ça. Et donc le temps de déployer un réseau, Free est attendu pour effectivement début 2012, on ne connaît pas la date. Mais en tout cas, on imagine que l'arrivée doit bouleverser l'univers tarifaire. Et il y a un truc assez intéressant, amusant, enfin amusant, je ne sais pas si c'est le terme, mais on avait fait des simulations de ce que pouvait être une offre d'Iliad et on avait vu assez juste sur les niveaux de prix auxquels il pouvait arriver. Et on s'était dit, ça bouleverse tellement le marché que ça ne va pas être ça, en fait. Et donc, on avait vraiment bien vu les gammes de tarifs dans lesquelles ça pouvait se trouver. On s'était dit, non, mais ça bouleverse tellement les économies, enfin, toute l'économie du marché mobile que ce n'est pas ça qui va se produire. Et finalement, c'est bien ça qui s'est produit. Alors, on s'était préparé, on avait sorti en juillet 2011, je crois que c'est le 4 juillet 2011, on avait sorti une offre qui s'appelait B&U. En 2012, quand vous rentrez dans une boutique de téléphonie, vous ressortez avec un téléphone et une carte SIM. Vous n'achetez pas une SIM toute seule, ce qui est tout à fait normal maintenant, ne l'était pas il y a 12 ans. Et donc, on fait une offre qu'on conçoit à partir de 2010, à la suite d'un voyage que j'avais fait en Italie, et où je m'étais trouvé devant le comptoir, un comptoir de Ryanair. Et il y avait une petite pancarte qui disait, voilà, vous avez le droit à un bagage. Et puis, il était dit, si votre bagage il dépasse le poids, ben, il faudra payer quelque chose. Et s'il n'y a pas de guichet, il faut que le bagage reste à l'endroit où vous montez dans l'aéroport, à l'aéroport. Et j'étais revenu en disant, mais finalement, nous, on pourrait faire aussi une offre dans laquelle on n'offre pas le téléphone, on n'offre pas une boutique, on n'offre pas du SAV, on n'offre pas de la relation client. On va faire une SIM seule, ce qui pour nous était un truc complètement nouveau. Et donc on le lance, ce projet sort, on le lance en 2011 et j'ai fait une erreur. C'est que j'ai donné l'offre disruptive à la même personne que celle qui faisait les offres, qui faisait le fonds de commerce. Et en fait, on ne peut pas demander à quelqu'un de couper la branche sur laquelle il est assis. Et donc ça, je l'ai changé, mais je l'ai changé trop tard. Je l'ai changé en février 2012. J'ai donné à ce moment-là B&U à Benoît Torlotin, qui est maintenant l'actuel patron de Bouygues Télécom, à qui j'avais dit, écoute, maintenant, quand tu fais une offre, on préviendra le reste de l'entreprise une semaine avant que tu la sortes, et seulement une semaine, parce que finalement, chaque fois qu'Iliad sort une offre, on le sait le jour même. Donc, tes collègues et ceux qui faisaient les tarifs grand public de l'époque auront une semaine pour réagir. Bon, on ne fait pas grand-chose en une semaine, il faut être réaliste, mais en tout cas, je ne voulais pas plus parce que je voulais absolument éviter les fuites. Et finalement, mon grand regret, c'est de ne pas avoir créé une branche différente dès mi-2011, puisque, en fait, l'ayant donné à celui qui gérait le core business, il ne m'a pas développé l'offre parce que ça lui cassait son PNL. Et c'est un vrai regret, ça, c'est un truc que j'ai loupé. Alors qu'on avait vraiment vu arriver l'offre, on avait un truc qui était très, très bien positionné. On ne l'a juste pas marketé suffisamment parce que je ne l'ai pas mise au bon endroit.
Vous dites que c'est un séisme quand ce quatrième opérateur arrive. Ce quatrième opérateur, c'est Xavier Niel. C'est aussi un personnage particulier. C'est un moment où on a l'impression que plus rien n'est à sa place. Lui, c'est un personnage atypique qui fait une communication qui est agressive et qui est provocante. De l'autre côté, il y a des acteurs qui doivent faire des investissements conséquents sur des infrastructures. Tout ça bouleverse complètement le fonctionnement du secteur. J'ai l'impression que à ce moment-là, tout le monde se demande comment ça va évoluer.
Alors, en fait, il y a un autre truc qui change, qui est important, c'est que avant l'arrivée d'Iliad en 2012, il n'y a pas d'invectives dans notre marché. On ne s'insulte pas, on ne se traite pas de tous les noms. Ça, c'est un phénomène très nouveau qu'on a vu arriver à ce moment-là, qui a d'ailleurs fait qu'on a attaqué certaines déclarations de Xavier Niel et qu'on a gagné. Alors, je n'ai plus le montant en tête, mais c'est quelques dizaines de millions d'euros malgré tout. Et ça, c'est une règle du jeu qui est assez nouvelle. Et en fait, une des conséquences assez directes de l'arrivée d'Iliad, c'est la nécessité que l'on a maintenant de prendre la parole beaucoup plus fréquemment, parce qu'il occupe l'espace médiatique de façon importante, beaucoup plus importante que ce qui se pratiquait avant. Avant, les entreprises faisaient leur travail pour se concurrencer les unes les autres.
C'est-à-dire qu'il y avait les offres commerciales, il y avait les résultats financiers, et ça s'arrêtait là.
Mais il n'y avait pas beaucoup de... Les télécoms n'étaient pas un sujet de discussion et de communication important. Le grand changement de 2012, c'est ça. Et moi, d'ailleurs, c'est le moment où je commence à intervenir beaucoup plus dans la presse, beaucoup plus dans les radios, pour défendre ce que l'on fait, pour promouvoir ce que l'on fait. Et c'est quand même quelque chose qui a changé notre façon de travailler, objectivement.
Qu'est-ce qu'on dit à ces équipes dans ces moments-là ?
2012 a créé un phénomène qui nous a amené en 2014 à refondre l'entreprise de fond en comble, en l'occurrence. Et ce que ça démontre, et ce qui n'était pas évident, et ce qui n'est pas du tout capté par les équipes, c'est qu'en fait, une entreprise, c'est mortel. C'est-à-dire qu'on pouvait, en 2014, quand on annonçait le projet de refonte de Bouygues Télécom pouvait mourir. Enfin, ce qui était inimaginable en 2011, on avait une entreprise qui fonctionnait très bien, avec 10 000 collaborateurs pratiquement. Personne ne pouvait imaginer qu'une entreprise peut mourir. Et en fait, une entreprise, ça peut mourir. Et ça peut mourir si ça n'a pas suffisamment conscience de ce qui se passe et si ça ne prend pas en compte le fait qu'il faut changer radicalement pour pouvoir survivre tout simplement et se redévelopper. Ce que nous avons fait en 2014. Mais quand vous voulez refondre une entreprise et redémarrer, il faut absolument que tout le monde soit embarqué. Et c'est souvent quelque chose qui est compliqué. Lorsque Nokia avait ses problèmes, il y avait eu un message qui avait été passé par un ancien de Microsoft qui avait pris la tête de Nokia, qui avait dit « Do you have the feeling the platform burned ?» Est-ce qu'on a vraiment le sentiment que la plateforme est en train de brûler ? Nous, en 2014, ce sentiment existait. Et donc, quand vous avez ce sentiment, tout est possible parce qu'après, on peut relancer parce que tout le monde est prêt à faire autre chose.
Vous prenez la tête de Bouygues Télécom en 2007. Vous êtes obligé, à un moment donné, de supprimer des emplois. Je crois que c'est 2000 emplois.
Alors, on le fait en deux phases.
Oui. Une première avec 500 emplois.
Oui, 500 qu'on fait en 2012, en l'occurrence, tout de suite. Et à ce moment-là, d'ailleurs, nos partenaires sociaux nous disent que nous ne sommes pas allés assez loin, qu'il faut en faire beaucoup plus. On a un dialogue social un peu particulier chez nous quand même. On a un échange de grande qualité avec une grande transparence. Et ensuite, en 2014, c'est là où l'entreprise peut effectivement disparaître. Et là, on fait quelque chose de beaucoup plus massif, puisque sur un périmètre, il y a des métiers auxquels je ne touche pas. Je ne touche pas aux gens qui sont dans les boutiques, pas aux gens qui répondent dans les centres de relations clients, pas les techniciens de maintenance qui dépannent le réseau. Et donc, l'effort se concentre sur une population d'à peu près 4000 personnes, dont je retire 1500 ou 1600 emplois. Donc très, très significatif.
Comment on prend ce genre de décision ?
La prise de décision est malheureusement assez simple, puisque le travail qu'on avait fait est un travail assez froid. Il faut bien comprendre qu'on le lance en juin 2014, on sort de la période où on a essayé d'acheter SFR. Et en fait, début 2014, je lance deux plans en parallèle. Il y a un plan sur lequel on est en train de s'organiser pour faire l'acquisition des SFR. Et on met beaucoup d'énergie pour y parvenir. Bon, on n'y arrive pas, c'est Patrick Drahi qui emporte l'entreprise. Et puis en parallèle, j'avais fait travailler une deuxième équipe pour voir quelles étaient les réductions que nous devions réaliser pour être capable de retrouver un équilibre économique. Et donc, en gros, Excel s'imposait à nous. C'est-à-dire, le résultat d'Excel qui tombe, c'est si vous n'économisez pas telle somme, alors vous n'y parvenez pas. Ça se passe aussi simplement que ça. Et là, l'idée, c'est de faire un plan de départ volontaire, suivi d'un PSE, avec l'espoir que le plan de départ volontaire sera suffisant pour ne pas passer dans la phase PSE. À l'époque, on est dans une tour qui s'appelle maintenant la Tour Accor à côté de l'héliport. On a 23 étages. Et au moment où on lance ça, moi, mon bureau est au 22e étage. Et je me disais, bon, bah, tous les matins, d'abord, l'essentiel des efforts sont faits dans cette tour, évidemment. Et donc, ça signifie que tous les matins, j'allais croiser des gens qui allaient perdre leur travail. Et c'est un truc qui m'a vraiment, qui me stressait énormément. Et donc, la décision que j'ai prise, ça a été de faire un truc un peu particulier, qui a été extrêmement bien vu par les équipes, d'ailleurs. Quand vous faites ce genre de choses, vous parlez à un comité central d'établissement. Alors, et puis voilà, vous avez discuté avec vos syndicats. Puis ensuite, les choses se diffusent par le biais de vos ressources humaines et par le biais de vos syndicats. Alors moi, je décide de faire un truc différent. Je décide de réunir une partie des collaborateurs de la tour dans un auditorium que nous avions au pied de la tour. Et j'annonce et je prends la parole devant quelques centaines de collaborateurs présents, dont probablement la moitié vont perdre leur travail. Pour leur expliquer pourquoi je fais ça, pourquoi je ne peux pas faire autrement. Et il y a un truc qui est très très particulier, c'est qu'à un moment donné, les collaborateurs m'ont applaudi, et c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, qui m'émeut même quand j'en parle maintenant aujourd'hui. Et je pense que c'est probablement par cette prise de parole que les collaborateurs ont souhaité... il y avait une vraie volonté de redresser l'entreprise. Bouytel, c'était une espèce de famille où les gens étaient... Pour beaucoup, c'est leur premier job, ils avaient l'envie de sauver cette boîte. Et donc, globalement, les gens sont partis. J'ai reçu beaucoup de messages de collaborateurs, vraiment beaucoup. J'ai reçu une lettre de quelqu'un qui était même pas d'ailleurs agressif, qui avait un peu d'acrimonie parce qu'il disait qu'il regrettait que les choses se passent ainsi. Mais globalement, c'est comme ça que finalement les gens se sont dit, ceux qui restaient, se sont dit, il faut vraiment qu'on change pour sauver l'entreprise. Et finalement, ceux qui sauvent l'entreprise, c'est pas tellement le... Les managers, ils peuvent donner la direction dans laquelle on doit aller, mais quand on enlève autant d'emplois dans une entreprise, il faut réinventer toutes les méthodes de travail. Et la particularité du monde télécom, c'est que c'est un monde qui va extrêmement vite. Donc nos partenaires sociaux ont souhaité deux choses. Ils ont souhaité qu'on réduise la durée de négociation pour aller vite, pour qu'on passe à autre chose. Et ensuite, l'ensemble des collaborateurs s'est vraiment mis en place pour être capable de réinventer un mode de fonctionnement qui, franchement, est radicalement différent. C'est important de bien comprendre que ce qui permet de retourner une entreprise, c'est vraiment l'ensemble du corps social de l'entreprise qui arrive. On écoute parfois des choses où les gens disent « j'ai fait ceci, j'ai sauvé tel truc enfin, ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, la leçon de tout ça, c'est quoi hein? C'est okay. Deux
Christelle
choses.
Christelle Edman, qui était obligée, elle, dans ses fonctions précédentes, avant d'arriver chez Orange, de faire un énorme plan de licenciement, dit que c'est une période qui, dans sa vie, a été la période la plus difficile et que pour rien au monde, elle voudrait la revivre.
Alors, moi, ce que j'ai trouvé particulier, la chance que j'ai eue, c'est qu'on a pu obtenir nos chiffres pratiquement intégralement avec du volontariat. On n'a pas été obligé de passer en PSE, mais j'avais fait un travail en PSE. PSE, c'est extrêmement injuste. C'est extrêmement injuste parce que finalement, il y a des règles qui sont définies. Alors, c'est injuste. Économiquement, c'est juste. C'est-à-dire, on essaye de préserver ceux qui ont des charges de famille. Mais vous avez des collaborateurs qui peuvent être... Moi, j'ai le souvenir, j'avais fait sortir des listes pour comprendre si on n'arrivait pas par le volontariat, s'il fallait ensuite passer en PSE. Vous avez des catégories d'emplois qui sont ciblées. Avec les règles, vous pouvez avoir des listes de collaborateurs, vous les mettez en face des catégories d'emplois, puis vous voyez qui sera le premier sur la liste. Et j'ai le souvenir, j'avais regardé en fonction, il nous en restait 60 ou 70 postes à supprimer, ou 50 postes à supprimer. J'avais fait sortir à quoi ça correspondait. Et il y avait un cas particulier, il y avait une femme qui était assistante chez nous. Mes assistantes sont plutôt bien payées chez nous, globalement. C'était une femme qui était célibataire, sans enfant. Elle avait 50 et quelques années. Et je me disais, mais si jamais on la pousse dehors, c'est quelqu'un qu'on va fracasser parce que jamais elle retrouvera un job comme celui qu'elle avait. Et elle a donné toute sa vie à l'entreprise et on va juste la faire chuter. Et c'est un des trucs qui m'avait vraiment... c'est pas pareil de faire un PSE, c'est pas pareil de voir le nom des gens. Et moi, il se trouve que chez Bouygues Télécom, je connaissais énormément de gens. Parce que je suis rentré à la base, j'avais une équipe de 6 personnes quand j'ai démarré. Donc, au fil de ma carrière, j'ai connu beaucoup de monde. Et j'avais des noms, et des noms, moi, je mettais un visage sur le nom. Et c'est vraiment spécial.
En 2021, en février 2021, vous devenez directeur général du groupe Bouygues.
Oui.
Vous changez de dimension. À l'automne, vous rachetez ANJ et Quance. Là, c'est une entreprise qui compte 97 000 salariés. Ça fait augmenter considérablement la taille de votre entreprise. Qu'est-ce qui vous pousse à cette époque qui est compliquée, on est en plein confinement, à vous lancer dans cette opération à plus de 6 milliards d'euros ?
On avait décidé, et on en avait parlé, c'était un sujet que j'avais eu l'occasion de discuter avec Martin Bouygues, la volonté qu'on avait de se mettre dans le secteur énergie-service. Il se trouve que l'opportunité se présente en 21, et ça correspond vraiment à ce que l'on souhaite faire comme développement. C'est le type de business dans lequel on veut se développer. C'est un business qui est très, très pérenne, qui offre une très grande résilience avec une couverture géographique importante. Et alors, le préalable à tout ça, c'est de se dire, est-ce que nous avons chez nous un manager que nous pourrions mettre à la tête de cette entreprise pour pouvoir l'améliorer en termes de rentabilité et la développer.
Puis l'intégrer.
Et l'intégrer.
Parce que c'est pas la moitié des effectifs, c'est pas rien.
Ouais, et donc, la conclusion, c'est que nous n'avons... On ne pense pas qu'on ait la personne idoine pour le faire. Donc, ça veut dire qu'on va devoir s'appuyer sur la personne qui pilote la boîte au moment où on se positionne pour le rachat. Donc, c'est Jérôme Stubler. Et finalement, la première question, c'est est-ce qu'on peut travailler avec Jérôme ou pas ? Alors, ça peut paraître un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais la première chose qui fait qu'on s'est positionné sur Equance, c'est une visio qu'on a eue un soir. On était encore en confinement, on avait les confinements en 21, où on a eu une discussion en visio avec Jérôme et puis avec Pascal Granger,
un de vos directeurs généraux délégués.
Délégué et puis le CFO du groupe. On est chacun chez nous, chez soi, hein, puisqu'il doit être 20h ou 21h. On fait cette visio avec Jérôme. Et à la sortie de la visio, on se rappelle avec Pascal en se disant, bon, c'est une visio qui ne dure pas très longtemps, ça dure 30 minutes. Et on se dit, a priori, on peut travailler avec lui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si nous n'avions pas eu le sentiment que nous pouvions travailler avec lui...
Pas eu ce feeling, l'opération
se faisait pas. On ne se serait pas positionné sur les courses. Ouais. C'était vraiment pour nous essentiel parce qu'il nous fallait quelqu'un qui partage la façon de voir le fonctionnement de l'entreprise. Parce que chez Bouygues, on a une façon particulière de concevoir la relation humaine. Et il fallait
c'est lié au fait que c'est une entreprise familiale ?
Évidemment, on a une culture forte. Je dis toujours trois verticales. On a une verticale ressources humaines qu'on diffuse dans tout le groupe, une verticale financière qu'on diffuse dans tout le groupe, puis on a une notion d'éthique extrêmement forte qu'on diffuse dans tout le groupe. C'est trois piliers pour nous qui sous-tendent qui sont nos valeurs et qui sous-tendent la culture. Et finalement, à l'issue de cet entretien, on se dit on peut travailler avec Jérôme. Et c'est comme ça que se lance le process. Bon, on a tout ce process de compétition qui se déroule et qui nous permet de remporter la victoire, entre guillemets, de fin 21.
Dans le groupe, il y a l'activité historique qu'on connaît qui est la construction. Il y en a une autre dans les médias, avec la télévision, il y a les télécoms. Et puis, il y a cette activité différente avec Equance que vous intégrez. Comment on fait pour devenir un spécialiste de tous ces métiers ?
Ah, on ne devient pas un spécialiste de tous ces métiers.
Non, mais on dit que vous adorez démonter les choses pour tout comprendre, pour voir comment ça s'articule.
Alors, moi, je fais beaucoup, 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 beaucoup de visites terrain. Un peu partout, d'ailleurs, dans mon bureau,
on voit pas mal de... Il y a plusieurs étagères avec des souvenirs de toutes les visites que vous avez. Donc ça va de Tchernobyl.
Oui, oui. Il y a des choses au nord de Madagascar où on a fait des systèmes de ponts. Enfin, bref, l'idée, c'est simplement de dire que nous sommes une entreprise de service, globalement. Les 200 000 collaborateurs du groupe font... On n'a pas d'activité industrielle, pratiquement pas. Notre activité est massivement une activité de service qui dépend des femmes et des hommes qui constituent le groupe. Et donc, pour comprendre ce que l'on fait, il faut se déplacer, aller à la rencontre des collaborateurs, écouter, se faire présenter ce qu'ils font, les remercier pour ce qu'ils font. Et c'est comme ça qu'on arrive à mieux comprendre ce que l'on fait au sens large. Alors, l'idée de comprendre, c'est pas du tout pour diriger. Les métiers sont dirigés par les patrons de métiers qui font ça très bien. Une autonomie totale. En revanche, ça vous permet l'idée de la compréhension de ce qu'on fait, c'est, pour reprendre une expression de Martin, éviter le développement stupide, c'est-à-dire être capable de comprendre la stratégie qui nous est proposée, être capable de la valider ou de l'amender en disant écoutez, là, il me semble qu'il y a un truc qui peut être un peu différent. Et finalement, le travail que l'on réalise, enfin que moi je réalise, c'est de pouvoir comprendre ce que font nos différents métiers, pour les accompagner, les soutenir. Quand ils nous proposent une stratégie, on est derrière eux pour la soutenir totalement. On est dans mon bureau, je ne voulais pas montrer avant de démarrer, mais je vous le montrerai tout à l'heure. Je vous montrerai sur un papier ma feuille de route. Et vous serez...
Elle tient sur une petite feuille.
Vous voulez que je vous montre tout de suite ?
Non, mais vous dites-nous la taille qu'elle a. C'est un Bristol ?
C'est grand comme ça.
Oui, c'est un grand post-it, quoi.
C'est un gros post-it, ouais. C'était le...
Qui est-ce qu'il avait... Vous l'avez écrit quand, cette feuille de route ?
À la suite d'un déjeuner que j'avais avec Martin en janvier 2016, dans lequel il me proposait de devenir directeur général délégué du groupe, et il m'a nommé en août. Et
qu'est-ce qu'il y a d'écrit dessus ?
Il y a écrit « Connaître les principaux managers du groupe ». Donc ça, c'est une première ligne. Deuxième ligne, « Ne pas faire à la place d'eux ». Troisième ligne, « Comprendre les stratégies ». Quatrième ligne, « Empêcher les développements stupides ».
Ça fait 30 ans vous, que vous travaillez chez Bouygues. Vous n'avez jamais imaginé aller travailler ailleurs ?
Non, j'ai démarré chez... j'ai eu ma carrière, j'ai démarré chez IBM quand j'ai commencé, oui. De 88 à 95 jusqu'au...
On y reviendra, parce que j'ai une question à cette
pardon.
Époque-là. Non, plus
mais
tard,
ensuite, une fois que je suis là, moi j'ai eu la chance d'avoir... Enfin, il faut comprendre que je suis un pur produit de l'ascenseur social tel qu'il existe. Je suis rentré chez Bouygues, j'avais une équipe de 6 techniciens au sein de Bouygues Télécom pour créer ce qu'on appelait le cockpit, c'est-à-dire le centre de supervision réseau 24-24. Voilà. Puis après, de 6, je suis passé un peu plus. Enfin, bref.
Vous avez gravi tous les échelons.
Mais en étant rentré à la base de l'entreprise, donc des entreprises qui vous permettent, en pur ascenseur social, d'accéder à la tête, c'est pas si courant. C'est très américain dans l'esprit. Le système français est plus
Mais c'est très méritocratique
corseté.
Aussi.
Oui, ici,
beaucoup
vraiment.
Plus.
Beaucoup plus, ouais.
Les études ne sont pas forcément le critère le plus important pour arriver quelque part.
En tout cas, heureusement, on ne fait pas la carrière de quelqu'un à la suite de la façon dont il a remporté un concours quand il avait 18 ans. Enfin, pas un concours, un examen.
Quand il avait 18 ou 20 ans et qui fait qu'il ait une carrière garantie, quels que soient les
résultats. Non, ça, c'est pas trop le style de la maison.
Qui peuvent arriver. Un groupe familial, ça veut dire des relations spécifiques avec un actionnaire qui est Martin Bouygues. C'est le président du groupe, c'est le fils du constructeur. Vous êtes une entreprise qui a eu pour l'instant que 2 présidents.
Mm-hmm.
C'est extrêmement rare dans l'histoire des entreprises. Qu'est-ce que ça a de particulier de diriger une entreprise familiale ?
Pour pouvoir travailler dans une entreprise familiale, il faut nécessairement un lien de confiance extrêmement fort avec son actionnaire. Et donc, il y a une relation spéciale. Martin, pendant des années, je l'ai eu au téléphone quasiment tous les jours. Alors, c'est un petit peu moins le cas maintenant, mais néanmoins,
plus, c'est lui qui avait créé Bouygues Télécom, donc qui vous avait confié son bébé.
Exactement. Il m'avait dit, quand il m'avait proposé de devenir DG dès en 2016, il m'avait dit, bon, pour Bouygues Télécom, on aura la garde partagée. En gros, vous continuez de faire du Bouygues Télécom, mais je le fais aussi. En fait, ce qui est particulier dans une société patrimoniale, c'est vraiment le fait de pouvoir facilement présenter les choses. Dans un projet d'investissement, quand vous êtes dans un groupe avec un board complètement non contrôlé, vous avez évidemment plein de choses qu'il faut aller, il faut aller convaincre chaque administrateur. Alors, chez nous, c'est aussi c'est important, mais vous avez une espèce de grande sollicité quand vous savez que derrière vous, vous avez une très grande majorité du capital qui est détenu chez nous par SCDM, la holding de Martin et d'Olivier et par les salariés. Les deux représentent presque 52% du capital. Vous représentez ces gens-là quand ils sont derrière vous pour une prise de décision. C'est un bloc extrêmement
solide.
Fort. Et donc, ça vous donne une grande sérénité quand on fait quelque chose. Parce que si on a décidé de faire quelque chose, vous êtes vraiment à doubler pour le faire. Et... la règle que dit Martin là-dessus, c'est à partir du moment où on a validé avec vous la stratégie que vous aviez, on est derrière vous, y compris si on a des moments un peu compliqués pour la dérouler. Et donc ça, c'est une très grande, très très grande sérénité. Et la deuxième chose que vous avez, c'est quand vous avez un actionnariat familial fort, les prises de décision peuvent être assez rapides. Parce que vous n'avez pas à convaincre, il y a quand même beaucoup moins de gens à convaincre. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien parce que ça vous permet de pouvoir dérouler des stratégies en dépit de ce que vous demande l'air du temps. Je m'explique. En 2014...
Il y a une vraie continuité, il y a une longueur de vue.
En 2014, si vous reprenez toute la presse qu'il y avait sur Bouygues Télécom, on vous expliquait que Martin Bouygues devait vendre, qu'il n'y avait aucune chance.
Oh, d'ailleurs, il y a eu plein de... À cette époque-là, tout le monde a discuté avec tout le monde pour voir qui pouvait se rapprocher.
Mais surtout, on devait mourir. Et en 2014, en l'occurrence, quand on avait fait le plan, moi, j'ai déclenché une cruralgie la semaine d'après. Et j'ai été hospitalisé pendant une semaine. Et Martin est venu me voir deux fois quand j'étais à l'hôpital. Et les deux fois, on discutait des critères. Et je lui disais, écoutez, il n'y a aucune raison qu'on ne parvienne pas à lancer l'entreprise parce qu'il y a des choses simples, on les a. Donc, si on les met dans le bon sens, normalement, ça marche. Si vous n'avez pas une société patrimoniale avec quelqu'un qui peut avoir des convictions qu'il va défendre, mais un board qui est très exposé à tout ce qui se passe dans les décisions d'analyse diverses et variées, je pense sincèrement que vous n'êtes pas suivi de la même façon.
Comment vous avez développé votre relation avec Martin Bouygues ?
Mais c'est le temps qui fait les choses. Simplement le temps. Le temps, la transparence, la franchise. Chez nous, le mensonge est quelque chose de létal. Donc il faut être transparent, honnête. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles ou pas de nouvelles, il y a des nouvelles en fait. C'est la règle du jeu, c'est simplement se dire les choses comme elles sont. À les ignorer, ça ne les résout pas. Donc voilà, c'est un truc assez simple, c'est accepter les choses comme elles sont, et puis les traiter quand il y a des problèmes, les traiter pour pouvoir s'en sortir et faire autre chose.
C'est un mentor, c'est un modèle, c'est une personne extraordinaire avec laquelle on peut avoir de l'échange. Lui, il est président, vous êtes directeur général. D'avoir des fonctions dissociées, c'est parfois intéressant aussi dans les entreprises, parce que ça donne un autre interlocuteur avec lequel on peut discuter.
Ah bah, d'autant plus que dans la relation que nous avons dans cette dissociation, Martin est vraiment dans un rôle de président en laissant... Il y a des choses, sans vous les détailler, mais des décisions de nomination sur lesquelles il n'était pas aligné avec moi, et où il me disait « Bon, c'est pas grave, je vous ai laissé faire, parce que c'est à vous de décider, c'est pas à moi. Bah, vous êtes venu me voir pour me dire « Vous étiez peut-être trompé, ça me va. » Enfin, on a une relation de grande transparence et de grande confiance.
J'ai quelques petites questions pour terminer. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous êtes devenu directeur général de Bouygues ?
Rien. Dans ma vie perso ?
Dans la vie en général. Dans votre plan de charge, dans la charge, j'allais dire, mentale et presque physique, quand on a un groupe de 200 000 personnes.
Mais moi, les choses se sont faites extrêmement progressivement. De 6 collaborateurs à 200 000, les choses se sont faites très, très progressivement. Donc, en fait, vous rentrez... quand j'avais été nommé DGD de Bouygues en 2016, je me suis mis à beaucoup plus voyager. Voilà, ça a été le changement. Mais en revanche, ça n'a pas changé autre chose. Moi, il y a une particularité que je cultive. J'ai ma vie professionnelle et j'ai ma vie personnelle. Et ce sont deux choses assez dissociées. Et elles restent assez dissociées, même en étant DG de Bouygues.
Même en voyageant beaucoup.
Oui. Bon, je voyage dans des bonnes conditions, très bonnes conditions. Mais le vrai changement, c'est plus de voyages.
Quelles sont les qualités d'un bon dirigeant ?
Savoir écouter, savoir décider. Et savoir faire grandir ses collaborateurs et ne pas avoir peur de les faire grandir parce que c'est eux qui permettent de développer l'entreprise, en fait.
Ça, tu es aussi sur un petit post-it, là.
Oui, mais c'est des choses assez simples. Ah, si, dernier point, il y a une chose tout à fait essentielle. Savoir ce que l'on ne sait pas. Pardon. Savoir ce que l'on ne sait pas faire pour être certain de s'entourer de ceux qui vous permettent de combler ce que vous ne savez pas faire.
Il paraît que vous êtes un expert des tapis du Moyen-Orient.
J'en ai eu beaucoup parce que mon petit frère, mon jeune frère, il n'est pas petit, mon plus jeune frère habite dans un pays qui n'est pas très à la mode en France à l'heure actuelle puisqu'il habite en Azerbaïdjan à Bakou. Mmh. Et qu'à une époque, j'allais beaucoup en Azerbaïdjan. C'est moins le cas maintenant, c'est même carrément
plus le cas.
Depuis au moins 4-5 ans, je pense. Et il se trouve que le nord de l'Iran a beaucoup de population azérie et qu'il y avait énormément de tapis iraniens que l'on trouvait en Azerbaïdjan. Voilà pourquoi j'en avais beaucoup.
Pourquoi est-ce qu'on vous surnomme Lucky Luke ?
Parce que je vais beaucoup trop vite. Non, je ne vais pas beaucoup trop vite. Je décide assez vite et donc c'est ce qui fait dire qu'on m'a appelé Lucky Luke.
Vous décidez plus vite que votre ombre.
Moi, je considère que de ne pas décider, c'est quelque chose qui est une... C'est pas bien parce que c'est quelque chose qui crée des problèmes, en fait. Que de décider... Alors moi, je décide vite parce que je suis peut-être probablement impatient. Et en décidant vite, l'important, c'est mieux de prendre une bonne décision qu'une mauvaise, évidemment, mais... L'essentiel, c'est de savoir reconnaître qu'on s'est trompé et puis le corriger assez rapidement. Et donc, effectivement, dans les décisions, le process de décision est un process dans lequel on considère que je décide rapidement.
C'est vrai que vous avez quitté une entreprise parce qu'elle traitait mal une de ses salariés ?
Exact, oui. C'était 95, en effet.
C'est une drôle d'histoire.
Ah, c'est particulier, oui, puisque, en fait, mon épouse, que j'ai rencontrée chez IBM en 93... avait eu un problème à l'époque, enfin il faut remettre les choses en perspective, on est en 95, hein. Le problème de harcèlement n'est pas du tout perçu comme maintenant, donc elle avait été harcelée par un manager, et il n'y avait pas eu de suite, elle avait été finalement contrainte à quitter l'entreprise, j'avais trouvé ça assez injuste, et donc en fait à cette époque-là, j'étais censé partir au niveau d'IBM Europe pour prendre un poste plus important, j'avais une carrière qui démarrait pas trop mal à l'époque, j'étais un jeune manager qui
qui montait.
Pas trop mal, qui montait un peu. Et je suis parti du jour au lendemain. J'ai démissionné le jeudi, je suis parti vendredi.
Et vous l'avez épousé.
Et on s'est marié un peu plus tard, effectivement. Et ça donne. Alors, de ça, vous avez un truc extrêmement simple. Le combat que je mène. Enfin, le combat. Non, pas le combat, c'est un peu fort, peut-être, comme terme. Mais en tout cas, il y a deux choses qui sont un peu la conséquence de cela. La première chose, c'est que vraiment, tout ce qui peut être harcèlement, c'est des choses qui sont. Moi, je punis sévèrement et qui seront souvent par des départs de collaborateurs parce que je trouve ça totalement inadmissible. J'ai fait tout ce que je pouvais pour qu'à chaque fois, on puisse libérer la parole là-dessus parce que je trouve ça absolument ignoble. Et puis la deuxième chose, c'est tout l'équilibre homme-femme que j'ai essayé de pousser dans les différents métiers, qui est un des trucs qui me tient à cœur.
Il vaut mieux apprendre sa mort de son vivant, dit Martin Bouygues.
Oui. Quand on a eu cette annonce, moi j'étais...
Faut peut-être qu'on raconte un peu l'histoire. Un week-end, on apprend... par une dépêche de l'AFP. Alors, ce qui, chez les journalistes, est le Saint Graal, quand l'AFP l'annonce, c'est sûr, que Martin Bouygues est mort.
Alors, c'est donc... ça doit être un samedi, en l'occurrence.
Oui.
Moi, j'avais eu Martin au téléphone le vendredi soir. J'étais au ski, et je l'avais eu le vendredi soir. Et le samedi, j'étais à l'aéroport de Genève pour rentrer sur Paris. Et il y a cette nouvelle qui tombe. Je ne sais plus quel collaborateur. C'est un collaborateur qui m'appelle pour me dire ça. Et mon premier réflexe, c'est de dire « C'est pas possible, je l'ai eu hier soir au téléphone. Enfin, » Évidemment, avant d'être mort, on est vivant, donc ça ne veut rien dire du tout. Et mon premier réflexe...
C'est de l'appeler.
Ce qui est aussi un peu... Et je tombe sur le répondeur. Et bon...
Et là, vous vous dites...
Alors après, j'appelle Edouard, son fils... Ne voulant pas lui dire la raison pour laquelle je l'appelle, je dis « mais tout va bien, oui, tout va bien ». Bon, je me dis « bon, si son père était décédé quand même, il se passerait peut-être un truc ».
Trop courant.
Et donc je raccroche et je rappelle à nouveau Martin, et là il décroche. Et je lui dis « ah ben ça va ?» Il me dit « oui, alors il avait déjà été appelé par d'autres personnes ». Et il me dit, je lui dis « bon, écoutez, je vous ai rappelé comme ça, mais je ne savais pas trop ». Et il me dit « oh, vous savez, les services d'opérateurs ne sont pas assez rapides pour vous couper la ligne si vous êtes mort aussi vite ». Et donc voilà, donc ça c'est... Et puis finalement, après je reprends l'avion, et puis quand j'atterris, tout le monde a compris que c'était une erreur.
C'était une erreur.
Mais voilà, premier réflexe, ça a été de l'appeler. Bon,
c'est pas une mauvaise idée de vérifier l'information.
Et surtout, je m'étais dit, enfin, j'avais
trouvé. Vous le sentiez pas comme ça.
Ma remarque était un peu stupide de se dire, mais c'est pas possible, puisqu'hier je l'ai eu. Mais en fait, encore une fois, bon, on est mort, on est vivant. Et en pleine forme surtout.
Et en pleine forme. Est-ce qu'il y a une chanson ou un morceau de musique que vous écoutez souvent qui vous accompagne?
J'aime bien de Coldplay Viva la Vida, parce que je trouve ça très énergisant. C'est un morceau que j'aime bien.
C'est ce que vous écoutez le matin pour démarrer?
Non, j'écoute pas de musique le matin. En fait, j'utilise ça, j'écoute ça, pardon. Si je suis seul en voiture en train de rouler, mais c'est pas le cas le matin. Et quand je suis en avion et que je dois travailler, en fait, j'ai une playlist qui est faite depuis très très longtemps. Je serais même pas capable de vous dire quels sont les auteurs qui sont dedans, mais qui sont de la musique classique pour avoir justement un fond et que j'utilise notamment pour. Je baisse un peu le son qui vous permet de vous endormir quand je voyage. Voilà.
Merci à Amandine Legri qui a réalisé ce podcast. Merci aussi à Lucille Cousin de la programmation de Radio Classique et à Béatrice Maudine en charge de l'information sur le site internet de la radio. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le noter et nous laisser vos commentaires sur vos plateformes habituelles. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines.